tout va bien. Mangeons. Déborah Ohana sur Nutri Radio.
Bonjour Déborah.
Bonjour Fabrice.
Alors mesdames, messieurs, je vais vous dire, ça fait une semaine qu'on discute avec Déborah non-stop sur ce débat qu'on a lancé sur Doctolib hors antenne. Alors, on n'a pas dormi. On a confronté nos élus.
Jour et nuit.
Et on s'est dit, mais il y a un vrai sujet. Donc on lance un appel. Si vous travaillez pour Doctolib, vous êtes, parce qu'on a essayé de vous envoyer un message et on n'a pas eu de retour pour l'instant. Vous êtes à la communication, au marketing, au développement. Vous êtes le patron de Doctolib, vous écoutez Nutri Radio, vous voulez intervenir. On veut organiser une émission avec un représentant de Doctolib, et peut-être aussi d'autres plateformes de rendez-vous en ligne, rendez-vous médicaux en tout genre. Voilà, avec aussi des professionnels de santé pour qu'on puisse échanger sur les pratiques, les bonnes pratiques peut-être, comment améliorer, faire un petit état des lieux, voilà, de manière conviviale hein, sur Nutri Radio. C'est des sujets donc, qui intéressent. Donc n'hésitez pas à nous faire un petit retour. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, vous savez, on prend aussi, on va remonter la piste comme un enquêteur. Alors, aujourd'hui avec vous, Déborah, nous allons parler, et si vous ne savez pas vraiment pourquoi on parle de ça, je vous conseille d'aller écouter cet excellent podcast désormais donc en ligne de l'émission de la semaine dernière de Déborah Ohana, qui concernait le rééquilibrage alimentaire, et on fait mention de ça, des plateformes en toute fin d'émission. Mais écoutez quand même le podcast dans son intégralité, ça vaut le coup. 6 points à savoir sur l'obésité. C'est le sujet du jour.
L'obésité. Parce que la stigmatisation de l'obésité est ancrée en parallèle de la méconnaissance de la pathologie. Pas plus tard qu'hier, j'ai reçu une patiente en fait, qui a endossé complètement la responsabilité de l'obésité de sa fille de 9 ans, pensant qu'elle avait mal fait les choses, alors qu'en réalité, elle n'y pouvait pas grand-chose, la pauvre maman. Le problème est que cette stigmatisation et les jugements qui y sont associés font souffrir bien plus que la maladie en elle-même, et qui plus est, ne permettent absolument pas ni de les aider, ni de faire baisser le taux d'obésité dans le monde. Par contre, ces réflexions et ces jugements sur leur poids et leur image les poursuivent, elles, toute leur vie durant. Tous mes patients se rappellent d'une de ces phrases ou réflexions qu'on a pu lui apporter sur son... qu'on a pu leur apporter sur leur physique et qui trottent toujours dans leur mental malgré tout. Et donc j'aimerais aujourd'hui qu'on fasse un point vraiment concret sur l'obésité autour de 6 rappels qui me semblent les plus importants, bien qu'on pourrait faire bien plus que 6 rappels. Mais je pense que déjà ces 6 rappels sont hyper pertinents, à mon sens en tout cas.
Ah bien évidemment, on va faire un point donc sur ces 6 rappels que vous tenez à préciser. Ce sera dans un tout petit instant, le temps quand même de prendre de vos nouvelles. Ça va Déborah, le mal de tête depuis la semaine dernière, il est passé?
Ça va, un peu mieux.
Un peu mieux, ouais, il est temps, c'est-à-dire, le tête qui dure une semaine, un peu mieux. Il me reste encore un petit mois et je pense que d'ici là, je n'aurai plus mal à la tête du tout. Moi, c'est par période, voyez-vous.
Ouais,
période. On va se raconter nos vies pendant la pause, parce que les auditeurs, là, ils veulent. On parle d'un sujet qui est extrêmement important, comme tous les sujets d'ailleurs que vous évoquez. Là, juste en introduction, quand vous parlez du poids, de la culpabilité aussi des parents qui ont des enfants obèses, c'est double peine, on va dire.
Beaucoup.
Allez, ouais. On marque une pause, on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission. C'est sur Nutri Radio avec Déborah Ohana.
Tout va bien. Mangeons. Déborah Ohana sur Nutri Radio.
6 points à savoir sur l'obésité, la thématique du jour de Déborah Ohana sur Nutri Radio. On va démarrer tout de suite avec le premier point de rappel qui est que l'obésité, c'est une maladie.
Eh oui, c'est une vraie maladie. Ça n'est pas un choix, ni même la conséquence d'un manque d'hygiène de vie. Et cette croyance qui court vraiment et qui affirme qu'on souffre d'obésité parce qu'on mange mal est hyper fausse. Il faut rappeler même que très souvent, la plupart des personnes qui souffrent d'obésité mangent de façon plus équilibrée que les personnes minces et sont, qui plus est, souvent plus actives. Cela est cependant assez inquiétant car récemment, j'ai échangé avec un médecin généraliste lors d'une soirée qui était sans doute pas à jour dans son actualité médicale, qui avait du mal à croire que l'obésité était vraiment une maladie. Elle me disait « Oui, j'ai entendu ça, mais j'y crois pas trop. » Ça m'a vraiment surprise d'un point de vue pour un médecin un médecin généraliste que pensait que c'était vraiment une croyance, en fait, que c'était une maladie. J'entends vraiment par maladie l'obésité présente depuis la naissance. Vous savez, par exemple, un enfant qui est, depuis sa naissance, au-dessus de la courbe de croissance pondérale, jusqu'à l'âge adulte et plus encore. non pas l'obésité qui a été acquise par d'autres facteurs comme des prises de médicaments, des dépressions, des dérèglements hormonaux, etc., qui sont par conséquent différentes et qui demandent une prise en charge différente. Mais du coup, je parle vraiment de la vraie obésité, quoi. Celle qui est présente depuis toujours. Ça n'est pas un choix. Et je pense que ça devrait être vraiment un point d'honneur et qu'il devrait y avoir beaucoup plus de médiatisation autour de ça pour casser cette croyance, en fait, qui fait beaucoup, beaucoup de mal.
Effectivement, ça fait du mal. Mais même si les médecins généralistes, en tout cas pas tous, mais certains pensent que ça n'en est pas une, pour traiter ou conseiller des patients qui viendraient consulter pour ce sujet ou être orientés, c'est un petit peu compliqué. Deuxième chose à savoir, deuxième rappel, l'obésité n'est pas due à un manque de volonté. Ça rejoint un peu point.
Ça rejoint un peu le premier item, en fait. Au titre de pathologie, l'obésité n'est pas liée à un manque de volonté. Dirions-nous qu'une personne atteinte d'un cancer l'est à cause d'un manque de volonté ? Je ne pense pas qu'on aurait cette réflexion, en tout cas, ni même que ça nous traverserait l'esprit. Je pense sincèrement que les gens qui sortent encore que le poids, de façon générale, est lié à un manque de volonté, n'y connaissent absolument rien, ni sur l'obésité, ni sur le poids, et encore moins sur le comportement alimentaire. Et donc, pouvons-nous juste imaginer un seul instant ce que peuvent ressentir les personnes souffrant d'obésité en retour de ces propos ? Parce que très souvent, ces personnes mettent en place pléthore d'actions, certes parfois très maladroites, mais quand même présentes pour travailler sur leur poids et se retrouvent à être jugées en leur disant qu'elles manquent de volonté. Donc souvent par des personnes qui tendent vers de la grossophobie. Et je rappelle, et je le crie haut et fort, que dans le domaine médical, il existe beaucoup, beaucoup de grossophobie. C'est-à-dire que des fois, vous allez voir un médecin, que ce soit généraliste ou gynécologue, absolument pas pour une difficulté de poids, mais on va vous ramener le poids sur l'actualité, quoi. C'est-à-dire, vous allez voir votre médecin pour une grippe, il va vous dire, tiens, vous avez pris du poids, là, il faudrait quand même commencer à en perdre. Mais en fait, je ne suis pas venue te voir pour ça, en fait. Donc, c'est très important, et c'est quelque chose qui se travaille, d'ailleurs, hein, l'assertivité, de réussir à recadrer dans ces moments-là, parce que la grossophobie, c'est un trouble, j'ai envie de dire, et on ne peut pas faire grand-chose si ce n'est de recadrer ces personnes-là.
Oui, comme on disait tout à l'heure, c'est un peu la double peine même. C'est vrai qu'on ramène toujours au poids, finalement. Combien vous pesez, vous, Déborah ? Non, je plaisante. Je n'ai pas entendu du tout.
Vous savez que je ne sais même pas combien je pèse, en réalité.
Ah, vous n'allez jamais vous peser. Vous ne faites pas attention à votre poids.
Très rarement, en fait. Je me pèse ponctuellement, mais très rarement. Et en fait, même des fois, j'ai des rendez-vous médicaux à faire. On me demande mon poids. Quand je leur dis que je ne sais pas, ils sont un peu surpris. C'est pas quelque chose qui m'importe. Alors, et comme j'ai... Enfin, après, c'est un autre débat. Là, on n'est pas là pour parler de moi, mais c'est pas quelque chose qui m'importe, le poids. Donc, en fait,
non, mais c'est important ce que vous dites. Parce que c'est vrai que souvent, on demande le poids comme si on était censé connaître notre poids, comme ça, immédiatement, la taille. Je veux bien, mais le poids, on n'est pas là à se peser tous les jours. Donc, ça veut dire que quelque part, c'est une injonction à se peser chaque jour. Connais ton poids.
Oui, c'est ça. Alors, en fait, bien évidemment que c'est un paramètre important. Je peux pas vous dire que... C'est pas important de ne jamais, jamais, absolument jamais se peser. Ça peut être problématique, surtout quand on a une difficulté dans la relation à l'alimentation. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver à prendre du poids comme ça progressivement et on s'en rend pas compte. Quand on a une difficulté à se connecter au corps, on va pas forcément s'en rendre compte. Après, quand on est plutôt, on a plutôt l'habitude de reconnexion à notre corps, même un kilo, on va le ressentir et donc ça va peut-être nous alerter. Donc effectivement, c'est intéressant de se peser, mais en fait, c'est pas quelque chose qui va nous définir profondément. On va pas se définir à travers un poids. Et si on pense qu'on se définit et qu'on vit à travers notre poids, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Ça relève du pathologique.
Exactement. Et comme dirait l'autre, le poids, on s'en balance. Allez, on va marquer. J'attendais ça tellement de pouvoir faire cette petite transition. Merci Déborah. On se retrouve dans un tout petit instant pour la suite et la fin de cette émission sur Nutri Radio.
Tout va bien. Mangeons. Déborah Ohana sur Nutri Radio.
C'est la Watt. Je pense à cette chanson, c'est la Watt, parce qu'elle s'en fout, elle se balance de savoir ce que les autres pensent. C'est la Watt. Et oui, mesdames, messieurs, un tube de 2019.
Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr que c'est 2019.
On parle de l'obésité aujourd'hui avec Déborah Ohana. Et l'obésité, tiens, c'est 6 points, donc, enfin 6 points, pas 6 points, si, 6 points à savoir sur l'obésité. Donc, c'est exactement ce qui est écrit sur le petit texte que m'a envoyé Déborah Ohana, que je ne suis pas, vous avez vu, j'étais tellement concentré sur la relance. En tous les cas, on a vu le premier point, l'obésité, voilà, c'est une maladie. Et même certains, vous l'avez dit, même certains médecins généralistes, eh bien, n'ont pas conscience encore de cela, n'arrivent pas à y croire, tout simplement, c'est quand même incroyable. L'obésité n'est pas due à un manque de volonté, c'était votre deuxième point. Troisième point, c'est une mutation génétique,
oui,
qui est impliquée dans l'obésité.
Exactement. Il y a une mutation génétique qui est impliquée dans l'obésité, notamment sur le gène MC4R. Cette mutation fait que, en réalité, les signaux de faim et de rassasiement sont déréglés, ce qui va du coup perturber la maîtrise de l'ingestion des bonnes quantités. Ce qui explique en partie pourquoi, en l'occurrence, les personnes qui souffrent d'obésité mangent des quantités supérieures à leurs besoins. Le fait de manger trop est donc un symptôme de la maladie et non une cause. Autrement dit, les personnes obèses mangent trop parce qu'elles souffrent d'obésité et non pas qu'elles souffrent d'obésité parce qu'elles mangent trop. Cela fait donc une nuance majeure à intégrer dans les consciences du plus grand nombre de personnes. C'est-à-dire que c'est vraiment un symptôme parce qu'il y a un dérèglement sur cette mutation. Vous avez suivi, Fabrice?
Ben non, mais on suit, on en apprend. On en apprend avec vous. Quatrième point, un microbiote intestinal différent, peut-être.
Effectivement, source d'obésité. Et oui, vous savez qu'on n'a pas le même microbiote. Enfin, toutes les personnes du monde n'ont pas le même microbiote. Il existe autant de microbiotes que de diversité humaine. Et nous savons aujourd'hui, nous pouvons même affirmer que le microbiote tient un rôle majeur dans le poids. Le microbiote des personnes en situation d'obésité sont par exemple, moins dense et diversifié de façon générale, augmentant les facteurs d'inflammation et d'accumulation de graisse dans le tissu cellulaire sous-cutané. Donc, le microbiote, en fait, des personnes qui souffrent d'obésité est moins riche en une souche particulière qui est Akkermansia muciniphila. C'est une souche en fait bactérienne qui est retrouvée massivement au sein du microbiote intestinal des personnes minces et qui est peu retrouvée dans celui des personnes obèses. Et en fait, la science actuelle travaille même sur l'idée de traiter l'obésité en changeant en fait les souches bactériennes du microbiote. Vous pouvez même ingérer en fait ces souches là, Akkermansia muciniphila. Alors, c'est pas l'unique facteur, mais c'est un facteur hyper important. Et donc, le microbiote intestinal, on n'a pas fait d'émission dessus parce que je crois vous avez d'autres émissions sur le microbiote intestinal qui
48,
sont déjà...
48 exactement chaque jour.
Et oui, donc le microbiote intestinal, c'est un vrai sujet sur lequel je travaille beaucoup, moi, en consultation et qui n'est pas à négliger, que ce soit sur le poids, mais également sur le comportement alimentaire. On sait aujourd'hui qu'il est au cœur vraiment de notre santé, mais vraiment. Et donc, on n'a pas le même microbiote. Donc, les personnes obèses qui souffrent d'obésité ont un microbiote différent de celles qui sont minces. Et donc, forcément, ça n'est pas de leur faute. Leur microbiote va impacter leur façon de se nourrir.
Ouais, effectivement, mais on pourrait parler du microbiote toute la journée. C'est une petite comparaison qui vaut ce qui vaut, évidemment, mais imaginons le cinéma, on pourrait en parler, c'est une industrie, c'est un monde. Le microbiote, c'est un univers. Donc on pourrait parler vraiment du microbiote toute la journée sous différents angles avec on va pas le faire maintenant. On va enchaîner avec l'inflammation parce que je m'enflamme, c'est moi qui m'enflamme, mais l'inflammation de Bagrad également.
Oui, les inflammations de Bagrad, j'en avais un peu parlé dans les précédentes émissions, mais il est important, je pense, de le rappeler, parce qu'en cas d'obésité, les tissus adipeux sont inflammés. C'est-à-dire qu'il y a une inflammation qui se crée autour des tissus graisseux, provoquant ce que nous appelons des inflammations ou une inflammation de Bagrad. Et cela a tendance à freiner la perte de poids et à accentuer ce qu'on appelle l'insulinorésistance, et donc l'augmentation des adipocytes. Vous savez, les adipocytes, en réalité, c'est des cellules graisseuses. Et donc, comme il y a cette inflammation, par exemple, les personnes peuvent changer absolument tout ce qu'elles mangent, ou même se rééquilibrer, ou même faire des rééquilibrages alimentaires, pour faire un clin d'œil à la précédente émission. Ça ne changera pas grand-chose parce que bah, y a l'inflammation qui freine tout ça. Et donc, c'est important, c'est un point à connaître dans cette difficulté d'obésité.
Le dernier point que vous vouliez évoquer aujourd'hui.
Le dernier point.
L'obésité ne se traite pas avec un régime restrictif. Et ça, c'est peut-être un des points aussi les plus importants.
Exactement. Parce que les régimes restrictifs pour perdre du poids aggravent la situation de l'obésité en constituant en fait des traumatismes pour le corps qui aura davantage de mal à s'en remettre et va devenir quasiment tout le temps, enfin, et déviant en fait tout le temps le poids vers la hausse en fragilisant le comportement alimentaire. C'est-à-dire qu'ils vont, en général, quand on sort d'un régime restrictif à mincissant, on va se retrouver à prendre encore plus de poids que celui qu'on avait initialement. Donc d'autant plus que les restrictions alimentaires génèrent des manques métaboliques qui accentuent les dérèglements, des régulations déjà présentes dans l'obésité. Donc il y a déjà des dérégulations, ça va les accentuer. Une prise en charge vraiment multifactorielle est nécessaire, notamment sur le comportement alimentaire, le rapport à son corps et à son image, mais également en prévention des comorbidités, j'ai du mal aujourd'hui, de la pathologie, de l'obésité, comme le diabète, l'apnée du sommeil, l'hypertension artérielle, etc. Donc, c'est vraiment une prise en charge pluridisciplinaire, de préférence avec des professionnels qui ne sont pas grossophobes et qui travaillent vraiment de façon holistique. C'est-à-dire que ce n'est pas juste binaire en se disant « Eh ben là, tiens, tu ne vas plus manger ça, tu vas perdre du poids et puis tu seras dans la vie des bisounours. » C'est complètement faux, hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que bah, vous avez encore de l'obésité qui existe dans le monde. C'est parce que c'est beaucoup plus complexe que ça et c'est une vraie pathologie.
C'est une vraie pathologie. Mais vous savez, Déborah, heureusement que vous êtes là. Heureusement qu'il y a des professionnels comme vous compétents, non, mais qui ont cette approche humaine. Je le dis avec le sourire, mais en tout cas tout à fait sincèrement. Heureusement qu'il y a des professionnels bienveillants et humains qui prennent en compte tous ces facteurs pour aider les personnes qui souffrent de cela, qui se remettent en question, qui essaient tout et qui s'en veulent, qui se sentent en plus coupables. Donc si ça renvoie aussi une image de soi qui est très dégradée. Et donc c'est important de se faire bien accompagner et d'être compris. Surtout. Deuxième point pour terminer, la référence aux bisounours, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter. Ça vient d'où ? Parce que là, à un moment donné, moi, je veux bien qu'on continue à faire des références sur les bisounours. Je sais même plus, moi, je dis à mon fils la fois passée.
La non, mais parce que bisounours, mais c'est oui, la vie en rose, quoi, non ?
Je lui dis la fois passée, on discutait, j'ai un ado, j'ai dit, oui, c'est pas les bisounours. Il m'a regardé, il a même pas osé. C'est ça l'ingratitude, c'est ça le non-respect. Il a même pas osé me dire que c'était un regard. Il m'a regardé, il a fait comme s'il comprenait. Et c'est fou ça quand même. Il a jamais vu un épisode des bisounours. Il sait même pas ce que c'est.
Il sait pas ce que c'est. Mais non, oui, c'est pas
bisounours. C'est quand même rentré.
Oui, les gens de notre génération, Fabrice, on se comprend.
Oui, on se comprend. Enfin bon, c'est vrai que mon fils me comprenne. On n'est pas dans le monde des bisounours. Non, mais c'est un truc de fou. J'ai mis du bébé la référence et là il m'a regardé avec un air qui voulait dire mais papa, t'es tellement ringard. Vaut mieux que je passe, je ne dis rien. Et je fais semblant de comprendre ta référence pourrie. C'était tellement bien, les bisounours, quand il y avait le petit arc-en-ciel qui sortait de leur ventre. Là.
La bonne époque.
Bah ouais, il y avait plein de choses. Je ne me souviens même plus des personnages des bisounours.
Ça oh, moi non plus.
Vous en souvenez ?
Pas du tout. Bah, pas
attendez,
du
on
tout.
Va chercher là, on n'est pas là non
c'est
plus.
C'est trop lointain.
Ouais, oui, non, mais d'accord, mais bon, personnage des bisounours, je tape bisounours. On a 2 minutes ? Vous avez 2 minutes ?
Oui, j'ai 2 minutes.
Allez, c'est parti. Quiz. Est-ce que vous pouvez nous nommer? Ah ben non, mais il y a plein de pubs sur le truc. 15 persos. D'accord. Alors bisounours. Non, donc 15 persos des années des dessins animés des années 80. Est-ce que vous savez? La Schtroumpfette. Ah oui, ma prix, il faut les réponses.
Ah oui, la Schtroumpfette, Goldorak.
Alors, il y avait qui, les mystérieuses cités d'art? Les mystérieuses cités d'or, c'était quoi? Alpha, Zia, Meta ou Zora, la fille, je ne sais plus.
Oh là là, je ne sais plus.
Comment s'appelait?
Astro, le petit robot Astro.
Ah oui, Astro, Capitaine
Candy.
Flamme.
Ah, il y en a plein.
Capitaine Flamme. Comment s'appellent les bisounours bleus? Alors, tiens, les bisounours. Il y avait tout alors, curieux,
ça, je me souviens
tout,
plus.
Tout taquin, tout ronchon, tout câlin. Bon, voilà.
Ça me dit
absolument rien.
Pays des bisounours.
Non, mais ça me dit absolument rien.
D'où pays des bisounours. Oui, ça nous dit rien, mais bon, c'est parce que ça y est, la mémoire s'est effacée avec le temps.
Quand même, c'était beau. J'ai les petites images sous les yeux avec sa crinière de lion, tout curieux, tout taquin, tout ronchon, tout câlin. Voilà, on était naïfs. On était naïfs. On était gentils. On était bienveillants. Alors que maintenant, on est durs.
l'introduction des bisounours dans l'obésité, c'est vraiment pertinent, je trouve.
Mais oui, tout à fait. Vous devriez d'ailleurs orner votre cabinet de bisounours, commandez-les quelque part et mettez-nous des bisounours partout. Vous vous souvenez de la chanson des bisounours? Bon, bref. Allez, Déborah, on va se retrouver.
Oui, pour conclure.
Oui, pardon. Excusez-moi, allez, je vous laisse conclure.
Eh bien, en fait, beaucoup de mes connaissances sur cette pathologie, trop souvent stéréotypées, faire des remarques sur le poids ou critiquer de façon, la façon dont on s'y prend pour perdre du poids n'aide en rien les personnes qui souffrent d'obésité. Ou non, d'ailleurs, hein, même si on ne souffre pas d'obésité et qu'on se retrouve à avoir ces remarques-là, ça n'aide pas à travailler sur le poids. Bien au contraire, cela a tendance à fragiliser l'estime et la confiance en elles de ces personnes, alors qu'elles n'ont pas vraiment beaucoup de pouvoir sur leur maladie. Et donc, il serait temps de changer de discours face à ce fléau et commencer à comprendre le mécanisme et le fonctionnement de la pathologie avant d'émettre des propos irrationnels. Donc, le poids n'est pas vraiment un choix dans la mesure où nous sommes en réalité prédestinés à tendre vers un poids de forme dont nous n'avons pas le pouvoir. Donc, nous pouvons toujours décider de lutter avec lui. En réalité, on peut lutter avec ce poids de forme, mais en réalité, c'est une lutte qui va durer toute notre vie. Et il y a des gens qui font cette lutte-là, hein, qui choisissent cette vie-là parce qu'ils pensent qu'ils ne vont jamais s'en sortir. Et bon, ça serait un peu temps de changer de perspective là-dessus. Vous savez, à un moment donné, il y avait, je ne sais pas si vous aviez vu, mais il y avait une campagne, c'était la journée mondiale, je crois, contre l'obésité. Et il y avait eu plein de spots publicitaires qui avaient été faits dans le métro. Et j'ai trouvé ces spots super intéressants, moi, hyper pertinents. Et je pense qu'il devrait, ça devrait être présent tout le temps et non pas juste sur une journée mondiale de l'obésité. Ça devrait être des spots publicitaires, de la médiatisation de ce style-là, en fait, tout le temps, en permanence, toute l'année, dans les métros, dans les médias, etc. Donc forcément, ça fait moins vendre, mais en tout cas, ça a le mérite de remettre les choses dans leur contexte.
Ok, je ne valide pas cette proposition. Alors,
c'est vrai.
Mais non, mais tout le temps. Oui, non, mais en fait, je comprends.
Pas
mais...
tout le temps, pas que ça, mais en permanence.
Oui, ça doit être rappelé, des rappels permanents et pas des petites tendances. C'est comme la journée de la femme, voyez-vous. Hop,
c'est pas tout le temps. Perso, j'ai du mal avec ces histoires de journée mondiale. Là.
Vous avez raison.
Bah, la femme, on devrait la. Enfin, c'est n'importe quoi.
Journée de la femme, oui, mais le 29 février. Ça, ce serait le meilleur jour. Comme ça, c'est une fois tous les 4 ans. On ne va pas nous prendre la tête. Hein.
Oh là 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 là. Mais que serait le monde sans les femmes?
Mais je plaisante. Mais déjà, que serait Nutri Radio sans les femmes? Rien
ah
du
bah
tout.
Oui, carrément.
Que
quoi.
Depuis que je fais Nutri Radio, j'ai développé mon côté féminin. Je suis en compréhension, en osmose, en empathie totale. Je suis bon à marier. Je suis bon, mesdames.
Vous avez évolué, tout simplement.
J'ai évolué, exactement. J'ai évolué. Je vous remercie. Thank you. Au nom de la France, au nom du monde, merci beaucoup, Déborah Anna. Merci à toutes. Et merci surtout à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent de plus en plus nombreux chaque jour. Déborah, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
Merci Fabrice, avec plaisir.
C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Le temps pour moi quand même de vous rappeler que cette émission sera disponible en podcast à partir de 18h dimanche sur nutriradio.fr, mais également sur toutes les plateformes de streaming audio.
Tout va bien. Mangeons. Déborah Ohana sur Nutri Radio.